Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence, aujourd'hui sur Tendance Ouest, avec aujourd'hui les confidences d'un humoriste. Bonjour Michael Hirsch.
Bonjour Tendance Ouest.
Alors vous vous produisez comme comédien, comme humoriste sur différentes scènes de théâtre, y compris de Normandie. C'est aussi une région où vous aimez venir respirer?
Alors oui, c'est une région que je connais mal, mais les quelques fois où j'y suis allé, c'était absolument merveilleux. J'ai eu la chance de venir avec mon spectacle jouer à Cabourg et à Bayeux. Et ça a été des découvertes absolument merveilleuses. Et j'avoue que là, dès que j'ai un moment de libre, j'ai très très envie d'aller découvrir la région plus en profondeur.
Les mots, M-O-T-S, qui peuvent être des mots aussi, M-A-U-X, le sous-titre de cette émission diffusée sur la première radio indépendante et régionale en Normandie, qui s'appelle Tendance Ouest, son magazine Tendance Confidence. Son sous-titre, c'est « Au cœur de la vie ». Si vous aviez, Michael Hirsch, à donner une définition à ces deux mots clés, qu'est-ce qui vous inspire, ces mots « cœur » et « vie » ?
Eh bien, ma foi, ça commence fort, cette interview. Qu'est-ce qui m'inspire? La vie, ça m'inspire tout. C'est-à-dire que je crois que c'est ça qui est au centre de tout et qu'il faut ne jamais entraver la vie. Qu'importe ce qui s'y passe, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye d'entraver la vie, que ça va pas. Quand on regarde la nature, c'est quand on essaye d'entraver la vie et cette puissance de vie. Alors, je crois qu'on a intérêt à sacraliser le plus, c'est la vie. Et puis le cœur, le cœur, c'est ce qui permet chaque jour de pouvoir profiter de la vie.
Et au cœur de votre vie, j'ai trouvé qu'il y avait ce mot aussi de sincérité, ou bien le mot vérité. Lequel des deux vous va bien, Michael Hirsch ?
La sincérité. La vérité, c'est toujours une question difficile, et c'est ce que j'essaie de défendre à la fois sur scène, à la fois dans le livre. C'est de défendre des propos qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de partager avec les gens, avec tendresse et bienveillance, parce que je pense que c'est une chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et que ça résout plein de choses. Ça résout probablement pas tout, pas tout le temps. Ce serait un peu idéaliste de voir ça comme ça. Mais en tout cas, on a intérêt aussi à laisser une petite place à la tendresse, à la bienveillance. Parce qu'on voit que la violence, la rudesse ne résout pas tout. Donc laissons-nous la possibilité aussi de peut-être améliorer les choses par la tendresse. Tout vient à point pour qui sait être tendre.
Mettre des mots sur des sentiments, est-ce selon vous enfermer ses sentiments, ses émotions dans une phrase, dans un rythme, ou au contraire, Michael Hirsch, est-ce que c'est donner à ces mots une nouvelle respiration et une liberté et ne pas les enfermer dans des mots, ces émotions?
Alors ça, c'est une question qui est absolument au cœur de ma réflexion en ce moment d'auteur, alors je vous en remercie. Je crois que c'est un double mouvement, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que je continue de penser très 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 fort que c'est important d'avoir le vocabulaire pour que nos sentiments puissent s'exprimer. Le pouvoir de la nuance, le pouvoir des mots, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent. Notre orgue intérieur a tellement de notes que c'est magnifique de justement pouvoir trouver l'écho en soi, de le faire vibrer, de trouver la note. Après, moi, dans mon métier en tant qu'auteur, parfois, c'est la grande frustration quand on ne trouve pas les mots exacts de dire tiens, voilà ce que je ressens, voilà ce que je perçois et j'arrive pas à exprimer cette nuance-là. Et c'est un joli challenge quotidien d'essayer de trouver le mot un peu plus riche, la formulation un peu plus précise, un peu plus subtile, un peu plus efficace pour justement transmettre ses sentiments. C'est aussi redonner ou en tout cas essayer de redonner le plaisir des mots. Et un plaisir à s'amuser avec les mots, une sorte de gourmandise en fait.
Une gourmandise des mots comme des notes, vous l'avez dit, Michael Hirsch tout à l'heure, des phrases comme des lignes musicales, jouant avec la corde sensible de l'intériorité aussi. C'est la partition musicale de votre vie que votre livre, L'être ou ne pas l'être.
Ah oui, c'est une jolie manière de le voir. C'est la partition d'une partie de ma vie probablement. Comme tout ce qui sort de nous quand on s'exprime, hein. Je crois que c'est l'écho d'un son plus sourd qui est en nous. Et oui, alors ce livre, L'être ou ne pas l'être, en fait, donc il est composé d'une quarantaine de lettres que j'ai écrites à plein de gens très différents. Alors c'est très varié, ça peut être des gens que j'aime et que j'admire, comme Fabrice Luchini ou comme Simone Veil. Ça peut être des gens pour qui j'ai moins d'admiration. Et alors là, c'est des courriers un peu plus cinglants, des missives téléguidées.
Entre Raymond Devos et Socrate, est-ce que vous connaissez l'histoire de la passoire de Socrate, Michael Hirsch ?
Ça me dit quelque chose, mais alors, non, dites-moi tout.
Avant de prendre la parole, avant de dire quelque chose sur quelqu'un, est-ce que j'ai vérifié que c'était vrai et que c'était bien que je le dise? Est-ce que j'ai vérifié que c'était utile que je le dise?
Voilà de belles valeurs cardinales. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? C'est des questions en tout cas qui me parlent et juste, je me pose toujours la question avant, non pas d'écrire parce que ce serait un frein trop important, mais avant de transmettre, de partager, je me pose toujours la question de savoir si je suis en train de parler pour ne rien dire. Ce fameux et magnifique sketch de Raymond Devos. J'essaye en tout cas, le vrai, encore une fois, est une question qui me pose un peu problème parce qu'on a tous tendance à s'accaparer la vérité. Sincère, voilà, sincère, c'est déjà bien. Que je me mente pas à moi-même sur ce que je défends. Est-ce que c'est bien? À partir du moment où c'est sincère, à la fin de mon spectacle, ce qu'on me dit souvent, c'est ça fait du bien. Alors pour moi, ça fait du bien, ça veut dire que j'ai agi pour le bien. Est-ce que c'est utile? En tout cas, c'est important pour moi. Alors, comme disait Jules Renard, je tâche de m'intéresser à ce que je fais pour que les gens trouvent ça intéressant. Donc je tâche de rendre ça important pour moi pour essayer que ce le soit aussi pour les autres.
Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de ce livre justement paru aux éditions Plon, peut-être à la page 59, je ne sais pas si ça vous inspire, c'est sur le thème de la mémoire, et je pense là à toutes les personnes qui sont atteintes par cette maladie d'Alzheimer.
Chère mémoire, chérébrale, chercheur, oui, chère mémoire. Si je t'écris aujourd'hui, chère mémoire, c'est pour te dire que je sais plus. Ah si, oui, il faudrait que tu reviennes. Alors, j'en ai conscience, hein. Si entre nous ça ne marche plus très bien, c'est un peu de ma faute, parce que depuis quelque temps, je ne me contentais plus des connaissances qu'on avait en commun et je suis allé voir ailleurs, sur Wikipédia, sur Google, et même mes souvenirs intimes, je les ai égarés sur Facebook et Instagram. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Oh, pas de quoi devenir dingue, ni de quoi prendre un flingue, hein. Je me disais qu'à force de me creuser la tête, j'avais vraiment de la fuite dans les idées. Et je m'inquiétais pas parce que je pensais que tu serais toujours là pour moi à ranger mes souvenirs dans ma petite tête. Mais à force de ne plus prendre le temps de chercher, bah c'est moi qui me suis perdu. Petit à petit, je suis devenu cet automate qui raconte toujours les mêmes salades. Et bon anniversaire, cher ami Facebook, et bonne année, cher contact Gmail. Toi, tu étais de plus en plus effacé, et moi, je brillais par mes absences. Ma vie n'était faite que de ces souvenirs de soirées où l'on picole et de ces souvenirs qu'on copicole. Alors j'ai compris qu'une relation avec sa mémoire se construit et se reconstruit sans cesse, et que ça, c'est apprendre ou à laisser. Et bien sûr, toutes ces mémoires virtuelles retiennent tout, mais c'est horrible parce qu'elles n'oublient rien, même les pires souvenirs, ceux que toi seul tu savais garder enfouis très profond. Alors je préfère dès aujourd'hui abandonner toutes ces mémoires 2.0 pour retrouver ma mémoire. Un point, c'est tout. Tendrement, Michael.
Qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même pour que les auditeurs qui prennent en cours cette émission puissent mieux vous connaître?
Que je suis heureux d'être là et que je suis humoriste, comédien, auteur, et j'essaye de donner le goût et de partager avec les gens mon plaisir à m'amuser avec les mots et à redonner le plaisir de s'amuser avec.
Pouvons-nous rire de tout et quelle distinction entre rire et dérision?
Oh là 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 là, on recommence très 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 fort là. Alors attention, chers auditeurs, on s'accroche, puisque moi là je m'accroche à mon siège pour essayer de trouver une réponse intelligente. Est-ce qu'on peut rire de tout? La question est difficile parce que sous ce verbe pouvoir, il se cache plein de nuances de pensée. Je crois en tout cas qu'il est très difficile de culpabiliser les gens de ce dont ils rient. Le rire, ça ne se contrôle pas. Le rire, c'est une surprise. Et on pourrait pas condamner quelqu'un pour la surprise qu'il a ressentie. Donc voilà, après, on est dans une société où on donne énormément, énormément d'importance au rire, aux humoristes aussi. Alors je suis le premier à en bénéficier, donc je vais pas m'en plaindre. On se rend bien compte à quel point le rire est une chose essentielle dans notre société, que ça permet de lutter contre les frustrations, que ça permet de lutter contre les difficultés et les obstacles qu'on rencontre. Je crois qu'il faut aussi accepter que l'humour n'est pas qu'une arme, c'est aussi un art. Et en ce sens, on a le droit à la création, on a le droit à l'erreur aussi. Je crois que le métier d'humoriste, ça doit pas être un peloton d'exécution permanent. On est des troubadours,
Et vous employez ce mot de troubadour. Nous pourrions aussi parler d'artiste, d'artisan. Et en vous interviewant ce matin, je pense que vous pourriez être aussi un artisan des mots.
J'adore le mot d'artisan. Et d'ailleurs, je suis un passionné d'artisanat. J'adore. Là, on est, pour le dire aux auditeurs, on est dans une bibliothèque absolument sublime. Alors, on a l'odeur des vieux livres, et puis on voit des livres absolument sublimes qui justement ont été reliés par des artisans de grand talent au milieu de cette bibliothèque en bois qui a dû être fait aussi par des artisans. Moi, j'aime beaucoup la notion d'artisan. J'ai eu la chance d'étudier le théâtre avec un maître d'œuvre, en fait, qui est Jean-Laurent Cochet, qui est un grand maître du théâtre français, qui a partagé avec nous cette vision du comédien comme artisan. J'ai la chance aujourd'hui de travailler avec un autre maître dans l'écriture qui s'appelle Yvan Calberac, avec qui j'ai coécrit ce livre, avec qui j'ai coécrit mon spectacle. Il y a aussi comme co-auteur de ce livre Elsa Desaigne. Et que ce soit avec Jean-Laurent Cochet ou avec Yvan Calberac, j'ai l'impression d'être leur apprenti. Exactement comme le savoir-faire se transmet dans l'artisanat. Et je me souviens de Jean-Laurent Cochet qui, au terme de 2 années et demie d'apprentissage à ses côtés, m'a dit « Voilà, maintenant, je t'ai donné ce que je pouvais te donner, pars sur les routes, fais ton métier pour découvrir encore davantage, va sur scène. » Voilà. Et que ça soit la scène ou devant une feuille de papier, je crois effectivement que c'est des métiers d'artisan avant tout, c'est des métiers de savoir-faire, c'est des métiers où, comme dit Jules Renard, on sue devant sa feuille de papier. Ce qu'on appelle les artistes aujourd'hui sont avant tout des énormes travailleurs, des heures et des heures de labour après avoir semé des petites graines que ça poussera et qu'on aura une récolte à la fin. On est devenus un peu des humains hors sol, c'est un peu curieux quand même.
Si vous aviez, je reviens au mot partition, la partition musicale à écrire de votre vie, Michael Hirsch, quels en seraient les dièses, les bémols, les silences? Et est-ce que le silence est une dimension qui vous fait peur, puisque le silence est ce qu'on trouve aussi entre les mots?
C'est incroyable cette interview, c'est incroyable. Je discutais il y a peu de temps avec un ami à moi qui est un très très grand pianiste de jazz et qui me disait que la seule chose qui compte dans la musique, c'est les silences. Je trouvais ça magnifique parce qu'en tant que comédien, on a tendance à vouloir toujours meubler le silence par d'autres paroles. Et ça fait du bien effectivement de laisser le silence exister. C'est là où tout vibre, c'est là où on se reconnecte d'ailleurs soi-même et avec les autres. Et un de mes auteurs fétiches, c'est Théodore Monod. Donc Théodore Monod qui partait souvent dans le désert. Et il dit « Le désert, ça fait peur comme le silence ». D'ailleurs, les deux sont très liés. Et il dit « On devrait se jeter dans le silence comme on se jette dans le désert. Parce qu'à travers le silence, on retrouve sa vocation d'homme ». Eh ben, ça me laisse bien silencieux tout ça. C'est important le silence, c'est très très important.
Jean d'Ormesson me parlait du silence également et il me disait « Je ne suis pas sûr que le silence ne précède pas la parole ».
Mais il est là avant et il est là après. Voilà, on est une note, alors à nous de savoir quelle note on a envie de jouer entre ces deux silences. Il y a le silence qui précède, il y a le silence qui arrive après et puis il y a les silences qui sont entre-temps. Et ceux-là aussi sont très beaux en fait. Je trouve ça magnifique cette définition du couple et de l'amour, c'est de se dire qu'on peut être à côté de quelqu'un et partager les mêmes silences sans que ça devienne angoissant. C'est beau, c'est rare.
Croire en Dieu, en vous-même ou aux personnes dont vous choisissez de vous faire proche, qu'est-ce qui vous apparaît le plus difficile dans cette dimension du verbe croire qui est aussi la dimension de la confiance?
C'est croire le plus difficile à vivre. C'est croire. Déjà croire, c'est pas facile. En tout cas, ça me paraît pas si mal de croire, même si on est dans une période où on a tendance à mettre à mal les convictions religieuses un peu partout, un peu tout le temps. C'est pas si mal de croire. Je trouve qu'en ce moment, la parole est à la défiance. C'est un grand effet domino, quoi. C'est un effet domino dans un sens comme dans l'autre. Le premier qui est défiant crée de la défiance vis-à-vis de tous les autres. Le premier qui est confiant crée de la confiance vis-à-vis des autres. Croire, c'est déjà bien. Avoir confiance, c'est déjà, à mon sens, formidable. Après, en qui, en quoi, la transcendance me paraît être une question essentielle et qu'on évacue un peu vite, en fait, et qui nous manque aujourd'hui cruellement de pouvoir croire en quelque chose qui est plus que son ego, plus que sa petite personne. Qui n'a rien à voir avec croire en soi, le fait d'avoir confiance en soi. Hein, mais ça me paraît indispensable.
Et bientôt le terme de cet entretien diffusé sur Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Michael Hirsch, vous en êtes l'invité. Vous êtes l'auteur de ce livre L'être ou ne pas l'être, paru aux éditions Plomb. Tout à l'heure, je parlais de vous en vous qualifiant de l'artisan des mots. Je pourrais aussi vous parler de sculpteur des mots.
Eh ben, c'est une magnifique image. Je sais pas. Oui, bah, je vous laisse me qualifier comme ça. En tout cas, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer un très très grand sculpteur et qui me disait une chose qui m'a beaucoup parlé par rapport à ce que j'essaye de faire. Il me disait, quand je vois un bloc de marbre arriver, j'ai une idée de ce que je veux faire, mais après, c'est le marbre qui décide et qui me donne la permission de faire ce que je veux faire. Quand j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle lettre, je sais là où j'ai envie d'aller. Et puis après, les mots me le permettent ou ne me le permettent pas. Et souvent, c'est eux qui décident de jouer ensemble. Et c'est pas forcément moi qui suis maître de tout. Et j'aime bien cette idée de me dire que je travaille avec une matière qui me répond. Je suis pas le seul à décider parce que, en général, c'est eux qui créent la magie, c'est pas forcément moi.
Merci beaucoup, Michael Hirsch, pour ce temps que vous avez accordé ce matin pour Tendance Confidence au sujet de votre livre Lettre, ne pas l'être, qui est aussi donc une pièce de théâtre.
Merci à vous pour ce merveilleux accueil. C'était un vrai bonheur. Et puis dans quel cadre en plus? On se sent si bien près des livres. Entourons-nous de livres.